Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
Lo que se reproduce dentro de la radio.
France Inter, le 18-20.
38, 39, 40, 41, 42, 43.
Ils comptent, les étudiants mexicains, ils comptent leurs disparus, 43 d'entre eux en 2015. Les réponses promises par le gouvernement, toujours rien, alors que ce gouvernement précisément s'en va. On y revient, nous, avec Emmanuel Stills dans un instant. C'est l'escale reportage ce soir. Sous les radars et Amélie Perrier, avec Ebola notamment en RDC, avec la petite fille du Mussolini qui prouve que les chiens ne font pas des chats. Et le mannequin pis surcoté, paraît-il, ça donne du chagrin aux Belges. 18h50, Le Monde selon Trump, saison 2. Un président américain dont le nouveau cheval de bataille, c'est cette colonne de migrants qui approche avec tous les fantasmes et les fake news aussi qui vont avec. 18h55, Le Monde à l'envers avec Cyril Sauvageau. Ce soir, on verra combien le retrait tient des États-Unis du traité sur les armes nucléaires concerne plutôt la Chine. Mais d'abord, direction le Moyen-Orient, direction les rives de la Méditerranée. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
C'est une somme, c'est une fresque, ce livre « Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient » publié chez Gallimard, 40 ans de crise observée, analysée par vous, Gilles Kepel, bonsoir.
Bonsoir.
Cette région n'a évidemment pas de secret pour vous, vous êtes notamment prof à l'École normale supérieure, vous dirigez la chaire Moyen-Orient-Méditerranée, vous décrivez les raisons du chaos ces dernières années entre pétrole et islam politique, pourquoi l'enthousiasme des printemps arabes a été douché, pourquoi il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas su voir, pas voulu voir peut-être, et quel est le rôle des grandes puissances et en quoi l'islam est devenu aussi une arme politique. On va y aller dans l'ordre, ou un petit peu dans l'ordre, en tout cas Gilles Kepel. Avant cela, quand même, je voudrais un mot sur l'affaire Khashoggi, le Saoudien qui a été tué vraisemblablement au consulat de Turquie. L'affaire commence à prendre d'immenses proportions, à juste titre d'ailleurs. Vous le connaissiez pas depuis longtemps, mais vous l'aviez perdu de vue, vous avez eu l'occasion de le dire récemment. Néanmoins, ce qui s'est passé dans ce consulat en Turquie, est-ce que c'est de nature à bouleverser les relations qui sont en train de se tisser en ce moment avec l'Arabie Saoudite ou pas?
C'est un peu le paroxysme des crises en Méditerranée, au Moyen-Orient, qui forme le sous-titre du livre. Malheureusement, oui, j'avais bien connu Jamal Khashoggi au début de la décennie 2000, quand les Saoudiens, après le 11 septembre 2001, avaient décidé d'ouvrir le pays à un certain nombre d'universitaires étrangers. Jusqu'alors, c'était fermé. Et le prince Turki El Faisal, qui était l'ancien patron du renseignement jusqu'en août 2001, c'est-à-dire le mois juste avant le 11 septembre, et qui avait créé un centre de recherche, avait souhaité qu'un certain nombre de gens puissent venir. Je m'avais invité, j'avais fait entrer pas mal d'étudiants là-bas à ce moment-là, et j'avais rencontré dans son entourage Jamal Khashoggi, donc qui avait été journaliste, qui avait aussi été quelqu'un qui avait très bien connu Ben Laden en Afghanistan autrefois, et qui était un homme très affable, très très ouvert, et qui nous fournissait beaucoup d'accès, beaucoup d'informations. Ensuite, il a suivi le prince Turki quand il est devenu ambassadeur à Londres, puis à Washington, où il était son media advisor. Et puis, quand j'ai été interdit de séjour en Arabie Saoudite en 2007, je l'ai perdu
de vue. Aujourd'hui, je reviens à ma question. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui est de nature à bouleverser? Le prince est en train de nous expliquer que la modernité entre en Arabie Saoudite. Est-ce que ça veut dire que c'est du trompe-l'œil? Est-ce que tout ça prouve justement qu'on est en plein trompe-l'œil ou pas, selon vous?
Alors, c'est deux choses différentes. Que l'Arabie Saoudite soit en train de se moderniser, c'est vrai. Moi, je suis revenu dans ce pays 7 ans après, donc 7 ans d'interdiction de séjour, et j'ai vu effectivement une assez grande transformation, en particulier parce que la jeunesse saoudienne, qui est nombreuse, c'est un pays qui est très peuplé, et qui a, contrairement aux autres pays de la péninsule, hein, sauf le Yémen, est très déterminé à prendre les choses en main. Et d'une certaine manière, l'accès au trône d'un prince de leur âge, il y a 33 ans, ça accompagne ce processus. Alors après, est-ce que la direction politique est en phase avec la jeunesse? Ça, c'est une question qu'on peut débattre, évidemment. Mais l'Arabie Saoudite, de toute façon, ne peut pas faire autrement que de passer à une phase post-pétrole, parce que la rente va baisser, et parce que le système de pouvoir est obsolète, et le pays aurait sombré. Alors, maintenant, pardon, ce qui s'est passé au consulat de Turquie. Et au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, plus exactement, tout ce qu'on, enfin, ce qu'on a le plus récent, c'est la reconnaissance par le pouvoir saoudien que Jamal Khashoggi a effectivement trouvé la mort lors d'un, ce qu'ils ont appelé une rixe, bon, c'est à minima, hein, sans doute, avec le journaliste. Évidemment, ça pose d'énormes questions sur qui a donné les ordres, comment ça s'est passé. Pour l'instant, moi, je suis incapable de vous le dire, j'étais pas au consulat. Ce qui... Alors, bien sûr, il y a des soupçons, les doigts se pointent, évidemment. Mais cela se situe dans un contexte qui est aujourd'hui celui de l'exacerbation des tensions au moment où la guerre en Syrie est en train de toucher à sa fin et où il va falloir reconstruire la région, en particulier reconstruire le Levant. Avec Vladimir Poutine qui apparaît le maître du jeu, parce que c'est lui qui finalement a permis à Assad de se maintenir en place, mais c'est en même temps un colosse au pied d'argile, puisqu'il doit, après le succès militaire qui n'est pas complet encore, il doit négocier une victoire politique. Poutine a été colonel du KGB à Dresde en 1989, quand l'URSS est tombée parce qu'elle s'était embourbée en Afghanistan. Il n'a aucune envie que le même scénario se reproduise en Syrie, où il est arrivé fleur au fusil, si vous voulez. Ils se font très attention. Et moi, je suis allé plusieurs fois en Russie discuter avec un certain nombre de responsables pour ce livre, et ils ont beaucoup insisté sur ce fait, si vous voulez.
Et c'est l'un de vos marqueurs, d'ailleurs, hein. Pardon de vous ramener un tout petit peu en arrière, quand vous démarrez sur les raisons du chaos, vous démarrez en 1973 à la guerre du Kippour. Oui. L'autre marqueur, c'est 79, à la fois Khomeini d'un côté, et puis l'embourbement, effectivement, le début de l'embourbement, en tout cas.
Le djihad en Afghanistan,
exactement,
c'est ça.
Et le djihad en Afghanistan. Et au fond, en toile de fond, on parlait de l'Arabie Saoudite. Elle est jamais très loin, cette Arabie Saoudite.
Non, ce sont les Saoudiens.
Et son pétrole non plus, d'ailleurs.
Voilà, ce sont les Saoudiens qui financent le djihad en Afghanistan, à la fois pour faire tomber l'Union soviétique, ça fait plaisir aux Américains. Reagan appellera les combattants du djihad les Freedom Fighters, également pour lutter contre l'influence iranienne sur le monde musulman. C'est la bataille pour le leadership le monde islamique, dès 79, entre Khomeini et les Saoudiens. Et c'est ça qu'on retrouve, c'est un facteur structurant, c'est ça qu'on retrouve, qui a pris en otage le conflit au départ, qui était un soulèvement démocratique en Syrie. Vous avez d'un côté les gens du Golfe qui envoient des millions de pétrodollars pour financer des djihadistes, pour faire tomber Bachar al-Assad, qui est perçu comme l'homme de l'Iran, et les Iraniens qui envoient les Pasdaran, les supplétifs chiites du Pakistan, d'Irak, le Hezbollah, etc., dans l'autre sens. Donc, vous avez cette révolution syrienne, cette révolte syrienne, qui est prise en otage, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, je crois, on n'a pas bien compris les choses, y compris en France, surtout en France d'ailleurs, ce qui nous occupe. On a soutenu la révolution syrienne parce qu'on a vu là une révolte démocratique, la chute du mur de Berlin.
Bon. On a vu quelque chose de très romantique, en fait, dans toutes les révolutions arabes, au fond.
Un peu, oui, et puis parce qu'on l'a vu de manière synchronique. C'est la révolution 2.0. Mm. Les arabisants à la poubelle, les orientalistes à la retraite, ça ne sert à rien de connaître cette région. On a vu ça tout à plat. Et puis, en fait, il y a une dimension, au contraire, historique, diachronique, c'est-à-dire que sous ces révolutions, ce qui va arriver, des forces beaucoup plus profondes, ce sera ce que j'appelle le djihadisme troisième génération, ce qui va donner Daesh, qui tire parti de l'effondrement des régimes autoritaires. C'est les frères musulmans qui agissent à travers la chaîne Al Jazeera du Qatar, et l'axe qataro-turc, etc. Et qui est aujourd'hui, tout ça, c'est très présent, y compris dans l'affaire Khashoggi, qui a sa part d'immense mystère. Pourquoi est-il allé au consulat à Istanbul ? Istanbul, qui est un lieu à l'intérieur du bloc sunnite, vous avez d'un côté l'Arabie Saoudite, les Émirats et l'Égypte, très anti-frères musulmans, et de l'autre, la Turquie et le Qatar. Donc, on est là sur une ligne de faille extrêmement... Moi, je n'ai pas les réponses à ces questions, mais en tout cas, je remarque que on est dans l'exacerbation des crises. Tout le monde a besoin de déstabiliser l'autre aujourd'hui.
Et c'est pour ça que ces alliances sont si volatiles,
fragiles,
celle de la Turquie, celle de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et même d'Israël. Je vous ramène aux révolutions arabes un instant, dont vous dites effectivement à juste titre qu'on ne les a pas vues arriver, ou en tout cas qu'on les a mal interprétées, qu'on a peut-être eu quelque chose d'un peu romantisant. Vous les séparez en deux, en fait, ces révolutions arabes, insurrection du premier type et du deuxième type, c'est comme ça que vous le dites. dans les insurrections du premier type, celle de la Tunisie notamment, alors il ne m'a pas échappé qu'on était au bord de la grève générale il y a encore quelques heures, qu'il y a un énorme contingent tunisien qui est parti combattre dans les rangs de Daesh. Néanmoins, est-ce qu'on peut quand même dire quelque chose a marché là-dedans en Tunisie?
Oui.
Il y a des institutions qui fonctionnent, c'est un peu cas un cas, mais tout ça fonctionne pas si mal au fond, non?
Il y a un de mes collègues américains, Safwan Masri, qui a appelé son livre en anglais l'anomalie tunisienne, mm-hmm. d'une certaine manière, parce qu'il considère que, justement, par rapport aux autres pays arabes, en Tunisie, il y a eu un système éducatif très important qui s'est développé, bilingue, une classe moyenne assez puissante, mm-hmm. et que, d'une certaine manière, Ben Ali était une aberration, si vous voulez, il n'avait pas d'être là, mais néanmoins, il était là. Et effectivement, c'est le seul pays arabe où il y a des institutions. La liberté de conscience est reconnue. On peut même changer de religion. On peut épouser quelqu'un qui n'est pas musulman sans qu'il se convertisse à l'islam. Mais la fragilité de la Tunisie, c'est que vous avez d'un côté une classe moyenne éduquée, libérale sur la côte. Il y a d'ailleurs des cartes dans le livre qui montrent ça très bien, je pense.
Oui, qui sont très bien faites.
De Fabrice Ballange, qui est un géographe très remarquable. Et à l'intérieur, vous avez une sorte de hinterland beaucoup plus pauvre. C'est d'ailleurs là qu'a éclaté l'étincelle qui a mis le feu à la plaine des printemps arabes en décembre 2010 à Sidi Bouzid avec l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi.
Est-ce qu'à un moment la Syrie quand même a commencé au fond comme la Tunisie, c'est-à-dire à un moment, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une forme sociale au début qui avait vraiment du sens?
C'était à la fois social et puis aussi démocratique, parce que le régime syrien est un régime qui est pas vraiment démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je raconte au début du livre que, en fait, ce livre a 40 ans, un peu comme, c'est un peu le temps qui a été celui où j'ai fonctionné dans la région, parce que j'ai
et
fait mes études.
On entend votre nostalgie, de ce moment-là, de ce qu'était Damas à cette époque-là, de ce qu'était le Liban aussi à ce moment-là.
Oui, en 1977, c'était très beau, on était très séduits, et même si très rapidement, on a déchanté parce qu'il y avait un régime très oppressif, et on apprenait à ne pas parler des gens dont il ne fallait pas parler. Si vous voulez, pour des jeunes gens qui venaient d'une université du quartier latin, où tout était permis, où il était interdit d'interdire, ça faisait vraiment quelque chose de très différent. Il a fallu s'y habituer, il fallait comprendre. Et effectivement, la révolution syrienne, le soulèvement en mars à Deraa, c'est un peu ça. C'est contre des jeunes gens qui ont été des lycéens, qui ont écrit sur un mur « Le peuple veut la chute du régime », enlevé par les services secrets, torturé, émasculé pour l'un d'entre eux. Très rapidement, néanmoins, en Syrie, c'est donc révolution du deuxième type, parce que toutes celles qui se passent à l'est du canal de Suez, dans la partie asiatique, sont dans des sociétés qui sont très fragmentées, confessionnellement, ethniquement, nationalement. Il peut pas y avoir de peuple en Syrie qui veuille la chute du régime, parce que très vite, ce peuple va se diviser en alaouites, druzes, chrétiens, ismaéliens, kurdes, arabes, sunnites, chiites.
C'est ce que vous dites, c'est ce qui rend impossible le départ des dictateurs.
Et du coup, les dictateurs vont en jouer, les sunnites en jouer, les chiites en jouer, et on a abouti à la catastrophe actuelle.
Alors, pardon de vous presser, parce que le temps tourne, mais il n'y a pas que des catastrophes dans votre livre. À la fin, il y a non pas un semblant de solution, mais en tout cas, le fait qu'une évolution pourrait amener à ce que les choses se passent un peu mieux, sortir du chaos. Vous dites au début notamment que ce qui règle tout ça, c'est le Coran et le baril, mais plus ça va, plus le baril, le pétrole, est en train de disparaître. C'est ce que vous nous expliquiez au début.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que cette équation étant en train de changer, on peut arriver sur des bases qui seront plus saines?
Alors, il ne faut pas aller trop vite parce que, effectivement, le baril. Quand je suis parti pour l'année dernière, quand j'ai commencé le livre, tous les économistes étaient en train de prévoir un baril qui restait très bas. Il était descendu jusqu'à 26 dollars. Aujourd'hui, il est remonté presque à 80, justement parce que la Russie et l'Arabie Saoudite, deux pétromonarchies, se sont entendues pour faire monter les prix, alors qu'en principe, tout les opposait jusqu'alors. Mais tendanciellement, il est orienté à la baisse, puisque il va y avoir une transformation à la fois de la consommation d'énergie, parce que les États-Unis produisent du pétrole et du gaz de schiste. Donc ça va faire baisser les prix. Ce que je veux dire, c'est que la grande question aujourd'hui, c'est le Levant, ce qu'on disait au début. Il me semble que de toute façon, en Syrie, Vladimir Poutine est un peu un colosse au pied d'argile.
C'est ce que vous disiez.
Hein, il ne peut fonctionner qu'avec ces quatre pays qui ont un jeu très différent, Arabie Saoudite, Israël, Iran, Turquie. Et il ne peut espérer une solution politique en Syrie que s'il a un accord avec les Européens et un investissement, parce que lui, il n'a pas les moyens de le faire. Et c'est là, me semble-t-il, qu'il y a un créneau très important pour la diplomatie européenne, si tant est qu'elle existe, et l'initiative française, parce que si l'Europe ne fait rien dans la région, il ne s'agit pas d'altruisme, malheureusement, mais c'est nous qui sommes les premiers concernés, on est aux premières loges. On a eu les flots djihadistes qui ont endeuillé la France, comme on le sait, et on a aujourd'hui les flots de réfugiés, la crainte des réfugiés, des immigrants clandestins, qui se traduisent, notamment avec les élections européennes de 2019, par la montée de l'extrême droite et la perspective d'une victoire des populistes qui vont casser l'Europe l'année prochaine.
Et voilà, et c'est en ça que toutes ces imbrications sont passionnantes. Gilles Kepel, vous dites aussi, l'islamisme politique dans ses diverses variantes subit l'une de ses plus grandes épreuves de son histoire récente, et on verra ce que ça veut dire effectivement pour les mois, les années aussi, et les mois qui viennent. Merci mille fois, Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, c'est publié chez Gallimard. Merci mille fois Gilles Kepel.
Merci à vous.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
Suite d'un jour dans le monde, ça se passe au Mexique ce soir, qui cherche toujours pourquoi 43 étudiants ont disparu. C'était en 2015, sous les radars, avec Amélie Perrier. On parlera notamment de la petite fille de Mussolini. Le Monde selon Trump et Loïc Loury ce soir. La caravane et Trump. Le Monde à l'envers et Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Nouveau retrait de Donald Trump cette fois. Intéresse plutôt les Chinois, c'est ça?
Oui, alors il y a une sorte de nouvelle guerre froide qui se joue entre Washington et Moscou, mais on verra que plus que la Russie, effectivement, les États-Unis visent en fait la Chine et ses ambitions militaires.
Et le tour de la planète n'est pas fini. Merci Cyril, à tout à l'heure. Il passe par le Wisconsin avec William Zivilane.
Incredible guy, but I got some incredibly edible eyes. Big and bad enough to end a little life like yours. So go finish up your chores. Go finish up your chores. Villain, you look bored. Grows and twilight goes with nimble toes through crops and rows designed to know the mortal dose of right and rose for all the schmoes. Can't read the prose, just watching shows. Don't catch the throes, don't examine their lives or ever gaze in the fire. And if you're living a lie, you can't be feeling so fine. Cause real folks must hide. There's so much in this world is fear and money, power and control and pride.
William Zivilane, j'adore ce nom. Uncle Bill Goes Hi-Fi sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Герасмахиво копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et sous les radars, Amélie Perrier, on commence avec une région du monde qui ne connaît pas de répit.
Le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Une élection présidentielle très incertaine. Le 23 décembre prochain marquera peut-être la fin de l'ère Kabila. Une épidémie d'Ebola fulgurante, plus d'une centaine de morts. Et la majorité des victimes dans l'Est, à Beni, où les habitants subissent en plus des attaques régulières de la part de rebelles. La dernière en date, c'était samedi soir. 11 civils et 1 militaire ont été tués. Une dizaine d'enfants ont disparu. L'assaut est attribué à des rebelles ADF, car en fait, depuis 4 ans, la région de Beni est la cible d'une série d'attaques. Écoutez la colère de cet habitant du quartier de Boykene, joint par RFI.
Tangu mwaka 2014.
Depuis 2014, c'est massacre sur massacre ici à Beni. Des gens continuent à être tués tous les jours. Pourquoi cela? C'est pour ça que les habitants de Beni sont en colère et ont manifesté dans la rue et se sont rendus devant la mairie de Beni avec les corps des victimes pour demander des comptes aux autorités. Nous sommes en rage. Nous ne savons plus quoi faire. Moi qui vous parle, mon fils de 12 ans a été enlevé par ses ennemis alors qu'il allait acheter du sel. On a entendu des coups de feu. Moi et le reste de la famille avons pu fuir vers le centre-ville.
Alors la population s'en délaissée, les autorités bien impuissantes face à ce groupe. Les ADF, les forces démocratiques alliées, sont des rebelles ougandais musulmans. Ils s'opposent au président ougandais Museveni et se sont installés notamment dans le Nord Kivu, en RDC voisine. Donc un groupe mystérieux vivant dans la jungle et la savane avec femmes et enfants. Pas de leader, aucune revendication, mais des centaines de civils tués ces dernières années. La semaine dernière, la chef de la MONUSCO, la force militaire des Nations Unies sur place, a parlé de négociations avec les ADF. Mais comme on ne sait pas ce qu'ils réclament.
Amélie, en Europe, on s'inquiète du retour de certains discours populistes nationalistes portés par des héritiers de personnages les plus sombres du siècle dernier.
Mais quand on parle d'héritiers, il y a parfois des liens qui vont au-delà de la politique. Écoutez cette députée européenne.
Non facciamo degli insulti a paesi che si sono fatto.
Elle dit n'insultons pas les pays qui font le sale boulot de l'Europe, dit-elle. Lavez-vous la bouche avant de parler de l'Italie. Cette eurodéputée, elle s'appelle Alessandra Mussolini. Oui, c'est bien la petite fille d'eux. Alors avant d'être élue au Parlement, cette quinquagénaire a été actrice, mannequin, chanteuse. Mais aujourd'hui, Alessandra Mussolini préfère la scène politique. Elle siège à droite. Elle a claqué plusieurs fois la porte, accusant ses collègues de droite de jeter aux orties l'héritage mussolinien. Dernier fait d'armes, elle menace de poursuivre en justice toute personne qui offenserait la mémoire de son grand-père. La communauté juive sur les réseaux sociaux la condamne en masse et veut la pousser à démissionner de son siège européen. Alessandra Mussolini a annoncé récemment se rapprocher de la Ligue, le parti d'extrême droite désormais au pouvoir Rome. Ouais. Et le lien en fait est déjà évident. En septembre, Salvini répondait à Pierre Moscovici qui s'inquiétait de voir le retour, je cite, de petits Mussolini en Europe. Salvini a répondu avec les mêmes mots que je vous ai fait entendre d'Alessandra Mussolini, qu'il se lave la bouche avant d'insulter l'Italie, les Italiens et le gouvernement légitime. Il faut rappeler qu'en 1922, Benito Mussolini obtenait les pleins pouvoirs après un vote du Parlement légitime, lui aussi.
Allez, disons aussi que les chiens font pas des chats. On reste en Europe pour terminer avec cette indignation. Dites-moi, beaucoup de chagrin, c'est les Belges.
Oui, ils sont indignés par un classement, comme on en trouve beaucoup sur le net. Une liste des 45 attractions touristiques surcotées, surmédiatisées, à éviter à tout prix. Et la RTBF note qu'on y trouve un seul édifice belge, le Manneken Pis, oui. Le site Far and Wide juge inexplicable la célébrité de la statue de Bruxelles. C'est juste un petit garçon qui urine dans une fontaine.
Oui, mais c'est le petit garçon qui urine dans une fontaine, attendez.
Ouais. Mais alors, il faut quand même rendre justice aux Belges, hein. Ils sont pas les seuls, hein, dans ce classement. Il y a aussi les chutes du Niagara, hein, dont la vue est complètement bouchée par les hôtels et les boutiques à touristes. Venise, envahie par les pigeons et leur déjection. Et même le château de Versailles, bondé en permanence, où l'on a plus de chances, nous dit le site, de voir le dos d'une foule d'inconnus que le palais lui-même.
Voilà, donc c'est une récompense d'être dans ce classement.
Presque.
Amélie Perrier,
vive les Belges.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est au Mexique que nous emmène l'escale reportage ce soir. L'homme que vous entendez là, c'est Andrés Manuel López Obrador, nouveau président élu, qui s'est engagé à créer une commission vérité pour éclaircir le mystère des 43 étudiants disparus. Disparus en 2015, au mois de septembre, à Iguala, dans le sud du Mexique. 6 personnes avaient été tuées, 43 élèves donc disparus. Bonsoir Emmanuel Stiles.
Bonsoir Fabienne.
Avec nous depuis Mexico, Emmanuel, près de 4 ans après, l'enquête officielle est plus décriée que jamais. L'actuel président qui va partir avait parlé de sa vérité historique. Les étudiants, avait-il dit, ont été tués et leurs corps brûlés dans une décharge. Une version officielle qui est largement remise en cause par l'ONU, par le président élu et aussi par les étudiants mexicains.
Une
fois de plus, les étudiants mexicains ont compté jusqu'à 43 pour demander justice pour leurs camarades disparus de l'école normale d'Ayotzinapa. 4 ans après les faits, l'indignation de milliers de jeunes est intacte, comme l'exprime Tamara, qui n'a que 18 ans.
Peña Nieto termine son mandat et c'est la dernière occasion de lui dire qu'il s'est moqué de nous, qu'il n'a jamais rendu de compte. Qu'est-il arrivé aux 43 étudiants ? Au Mexique, les étudiants se font tuer en toute impunité et depuis longtemps.
La photographie de mon fils qui se llama Miguel Ángel Mendoza Zacarías.
Estanislao Mendoza montre la toile cirée à l'effigie de son fils disparu, Miguel Ángel. C'est sa bannière qui l'emmène partout. Il ne perd pas espoir de revoir son fils un jour.
Nous disons la même chose depuis le début. Nous allons continuer de chercher nos fils vivants, car ils étaient vivants quand ils ont été emmenés. Le gouvernement ne nous dit que des mensonges. Nous les chercherons vivants jusqu'à ce que les autorités fédérales nous démontrent le contraire. Nous voulons savoir ce qui leur est arrivé et où ils sont.
Clemente Rodriguez, père de Christiane, un autre étudiant disparu, pense que l'enquête doit rebondir après 4 années dilapidées.
4 ans de que nous ont engagés totalement.
Cela fait 4 ans qu'on nous trompe. Nous en sommes au même point qu'au début. Le temps a passé, les jours sont devenus des années, mais il y a beaucoup d'autres pistes sur lesquelles il faut enquêter.
Siempre pues dejaron los expertos.
Ces autres pistes, elles ont été révélées par les experts de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et un groupe de légistes argentins a conclu qu'il n'existe pas de preuves soutenant la version officielle selon laquelle les étudiants ont été brûlés dans une décharge. Le gouvernement de Peña Nieto accuse une poignée de policiers municipaux corrompus, complices d'un cartel local. Or, l'affaire pourrait être liée à une filière de trafic de drogue entre la ville d'Iguala et les États-Unis. Luis Tapia, avocat de l'organisation qui représente les parents des 43, parle d'un cas aux multiples ramifications.
La complexité de cette affaire implique d'enquêter sur le rôle joué par les polices municipales de 5 villes différentes, sur la responsabilité des policiers fédéraux et des militaires. Il y a un contexte de macro-criminalité, de collusion entre les milieux politiques et criminels, ce qui explique que ce crime a pu se produire.
Le dossier d'enquête sur la disparition des 43 est immense, 600 000 pages et plus d'une centaine d'arrestations. Mais les experts indépendants et les Nations Unies ont dénoncé les tortures infligées aux principaux accusés.
Il est évident que la torture nous éloigne de la vérité. C'est une pratique bien ancrée dans le système judiciaire mexicain. Et dans ce cas-là, elle a été appliquée pour soi-disant élucider l'un des cas les plus graves de violation des droits de l'homme.
Dans un pays où plus de 9 crimes sur 10 restent impunis, l'affaire des étudiants disparus ne constitue pas une exception. Et pourtant, le président Peña Nieto a encore affirmé sa conviction que les 43 sont morts et leurs corps calcinés. Pour le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, Yann Yarab, cette version officielle est indéfendable.
Le gouvernement laisse entendre qu'il est ridicule de questionner la version officielle et que les parents s'obstinent pour des raisons purement émotionnelles. Mais ce n'est pas le cas. L'enquête laisse trop de questions sans réponse. On sent qu'il y a eu pression pour offrir les résultats, mais n'importe comment.
L'affaire d'Ayotzinapa a contribué à faire connaître le drame des disparitions au Mexique. Il y a officiellement 37 000 disparus et c'est sans doute seulement un échantillon de la réalité car beaucoup de disparitions ne sont pas dénoncées par peur de représailles. Les parents des 43 se disent portés par le soutien de toute l'école normale rurale d'Ayotzinapa et par les foules d'étudiants qui marchent à leur côté. Nous sommes des normaliens, crient fièrement ceux qui vont devenir professeurs dans les zones les plus pauvres du pays, comme les élèves d'Ayotzinapa. Au Mexique, les jeunes montrent leur force et envoient un message au gouvernement. il ne sera plus jamais possible de faire disparaître des étudiants.
Emmanuel Stills à Mexico pour France Inter. Merci Emmanuel. C'est vieux, mais qu'est-ce que c'est bon, Tina et Ike Turner, Proud Mary. Tina Turner, pas une ride, dites-moi.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le Monde selon Trump, saison 2 et Loïc Loury. Bonsoir Loïc.
Bonsoir Fabienne.
Le président américain, votre président, multiplie les déclarations avant ou face à l'arrivée de cette caravane de milliers de migrants venus du Honduras. Et au passage, il fait sienne une sorte de théorie du complot, Loïc.
Eh oui, tout est parti d'un tweet posté par un élu républicain, Matt Gaetz, une vidéo sur laquelle on voit un homme donner de l'argent à des dizaines de migrants. Le problème, c'est l'interprétation fumeuse qu'en fait Matt Gaetz. Le républicain d'abord affirme que cet argent a été distribué au Honduras pour pousser les gens à rejoindre la caravane. Et il fait surtout des hypothèses quant à l'identité des responsables. George Soros, d'abord, vous savez, ce milliardaire qui est un peu l'épouvantail de l'extrême droite américaine, on lui prête toutes les manipulations du monde. Et puis, le Parti démocrate, deuxième responsable possible, accusé de favoriser l'immigration de masse. Ces propos, Donald Trump les a repris plusieurs fois, comme ici dans Le Monde, Tana, à presque deux semaines des élections de mi-mandat.
Ça va être l'élection de la caravane. Vous savez de quoi je parle ? Mais désormais, nous allons commencer à comprendre. Je ne dirai pas que c'est sûr à 100%. Je mets un petit point d'interrogation à la fin de cette phrase. Beaucoup d'argent a été distribué pour pousser les gens à rejoindre notre frontière d'ici les élections, parce que nos opposants pensent que ce serait négatif pour nous.
Voilà, beaucoup d'argent distribué pour pousser les gens à rejoindre notre frontière, sauf que Loïc, évidemment, absolument rien ne prouve cette affaire.
C'est la fabrique à fake news en action. Le Washington Post s'est penché là-dessus. Il s'avère que la vidéo n'a même pas été tournée au Honduras, mais au Guatemala. Difficile, en revanche, de savoir d'où vient précisément l'argent. Le parti d'opposition hondurien affirme n'y être pour rien. Ce sont peut-être tout simplement les habitants du coin qui viennent en aide à ces migrants. Cela s'est déjà vu dans le passé. Quoi qu'il en soit, Fabienne, c'est à celui qui parle d'apporter des preuves, dit le Washington Post. Le journal décerne donc au passage 4 Pinocchio à Donald Trump et à Matt Gaetz. L'affaire, elle devient très politique à presque deux semaines donc des élections de mi-mandat.
Alors les midterms, tiens justement, allons-y puisqu'on est en plein dedans avec hier soir un débat en Floride.
Eh oui, une opposition entre les deux prétendants au poste de gouverneur, un débat emblématique à plusieurs titres. La Floride d'abord est le troisième état le plus peuplé. Les deux hommes ensuite n'ont rien en commun. À côté démocrate, on a Andrew Gillum, 39 ans, le fils d'une conductrice de bus et d'un maçon, premier noir à briguer ce poste de gouverneur en Floride. Et puis chez les républicains, Ron DeSantis, 39 ans, lui aussi, archi-fan, c'est un euphémisme de Donald Trump. Voilà son clip de campagne.
Tout le monde sait que mon mari, Ron DeSantis, est soutenu par Donald Trump, mais c'est aussi un père merveilleux.
Construit le mur.
Il lit des histoires.
Et Monsieur Trump lui dit, vous êtes viré, j'adore cette partie.
Il apprend à Madison à parler.
Rendre sa grandeur à l'Amérique.
Les gens disent que Ron est comme Trump, mais il est bien plus que cela.
La cour des grands, c'est si bon.
Je voulais juste que vous sachiez.
Ron DeSantis. Votez Ron DeSantis.
Et voilà un sacré programme et une belle occasion d'attaquer hier soir pour le démocrate Gillum. Lors de ce fameux débat télévisé, il ne s'en est bien sûr pas privé.
Donald Trump est faible. Et comme tous les gens faibles, c'est une brute. Monsieur DeSantis est son acolyte. Et il fait tout pour devenir l'apprenti de Trump. Dès qu'il le peut, il lui tweet, lui parle, lui montre qu'il se complète.
Et un point pour Gillum, le démocrate a dominé ce débat. Les deux hommes se retrouveront dans quelques jours, Fabienne, pour un nouveau débat.
Voilà, et les midterms, on n'a pas fini d'en parler, évidemment. On y sera, tiens, d'ailleurs, prenez date, Loïc, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser à ce moment-là. C'est dans 2 semaines, ça se passe le 6 novembre. Quelques chiffres, 39 gouverneurs, 35 sénateurs, 435 députés. Entre autres, tout ça élu, l'élection capitale pour Donald Trump et pour les démocrates. Merci beaucoup.
Le 18-20. Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Le monde à l'envers et Cyril Sauvageau ce soir. Cyril, Donald Trump, tiens encore lui, a annoncé ce week-end le retrait américain d'un traité nucléaire signé avec l'Union soviétique à la fin des années 80. Un accord que Moscou est accusé de violer depuis de nombreuses années. Mais bien plus que la Russie, Cyril, c'est la Chine qui est directement visée par Washington en réalité.
Oui, l'escalade verbale de ces dernières 48 heures entre Russes et Américains ne doit pas faire oublier l'essentiel. C'est avant tout, en effet, pour contrer les ambitions militaires de la Chine, bien plus que pour faire pression sur Vladimir Poutine, que Donald Trump a décidé de rayer d'un trait de plume cet accord bilatéral signé en 1987. Le Kremlin peut bien annoncer son intention de riposter en construisant de nouveaux missiles. L'un des initiateurs du traité, Mikhail Gorbatchev, peut bien sortir de son silence pour appeler Washington à revenir sur sa décision afin, je cite, de préserver la vie sur Terre. Tout ça ressemble à un banal remake de la guerre froide, alors que l'enjeu capital se situe ailleurs, bien plus à l'est, dans le Pacifique, où le régime de Pékin multiplie les manœuvres et affiche de plus en plus ses revendications territoriales, autour notamment de récifs en mer de Chine transformés en bases militaires.
Et alors Cyril, si on en croit Washington, le problème de ce traité, c'est qu'il a laissé les mains libres à Pékin pour développer son arsenal.
C'est en tout cas la thèse défendue par la Maison-Blanche. La Chine n'étant pas signataire du traité qui réglemente et interdit, rappelons-le, l'usage de missiles de moyenne portée entre 500 et 5500 km, la Chine donc a pu s'équiper hors de tout contrôle. Selon un rapport de l'armée américaine présenté en 2017 devant les sénateurs, l'armée de libération du peuple aurait développé l'arsenal de missiles le plus diversifié au monde et plus de 80% de ces missiles seraient en violation du traité si Pékin en était signataire. Les États-Unis, à l'inverse, s'estiment pieds et poings liés, tenus par ce traité qui les empêche de s'armer en fonction de la menace. On rejoint là un aspect fondamental de la doctrine. Trump, le locataire de la Maison-Blanche, s'applique depuis 2 ans à détricoter toutes sortes d'accords et de traités internationaux qu'il juge défavorables aux États-Unis.
Mais alors, et pourtant, en matière d'armement, la Chine est toujours très très loin derrière les États-Unis, non ?
Oui, même si le budget militaire de la Chine est le deuxième au monde, celui des États-Unis reste 4 fois plus important. L'écart entre les deux puissances est phénoménal. Mais la Chine s'est lancée ces dernières années dans un vaste programme de modernisation de son armée. Porte-avions, navires de combat, engins ultra sophistiqués. Pékin est engagé dans une course à la technologie qui ne risque pas de se calmer avec un président américain désireux de relancer la course aux armements. La montée en puissance de la Chine et sa présence grandissante dans le Pacifique appellent une réponse très ferme de Washington. C'est la stratégie défendue par le conseiller à la défense de Donald Trump, le va-t-en-guerre John Bolton, qui n'est sans doute pas pour rien dans la décision de quitter ce traité nucléaire. John Bolton est justement ce soir à Moscou pour expliquer la décision américaine. Il y rencontre le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et demain Vladimir Poutine. A priori, le conseiller de Donald Trump n'a pas prévu de pousser jusqu'à Pékin.
Cyril Sauvageau, merci beaucoup. On se retrouve demain, évidemment. Cyril, nous, on reste ensemble le 18-20. La suite, c'est le journal de Pierre Veil d'abord, et puis le téléphone sonne ensuite. On parlera de police, figurez-vous. Merci de nous écouter.